Bien, alors j'ai fait ces petites remarques préliminaires pour baliser bien le champ, pour qu'on puisse voir ce qui est de l'ordre de la science, ce qui est de l'ordre de la philosophie, ce qui est de l'ordre de la théologie. Donc je rappelle que ce qui est propre au champ théologique, c'est le fait que, outre, on essaye d'apporter des réponses et clarifier des questions de sens, de fondement, de valeur, à partir du champ de l'expérience humaine, y compris même l'expérience scientifique, mais en plus en tenant compte de ce trésor d'informations qui est accepté dans la confiance, fides, hein, la foi, qui est accepté dans la foi comme source d'informations fiables et qui est la révélation et l'ensemble des réflexions sur cette révélation dans le cadre de l'Église, pour ce qui est de la tradition catholique. D'accord ? Bon, alors, je ne m'intéresse ici qu'à la partie, on pourrait dire, ensemble des discours rationnels. Donc, vraiment à la théologie comme science. D'accord ? Donc, c'est une approche rationnelle qui entend rendre intelligible le contenu de la révélation sans le restreindre, bien entendu. Mais donc, je m'intéresse à cette dimension de discours, hein, parce que sinon, c'est autre chose que s'intéresser au rapport, par exemple, science et foi. Vous voyez, science et foi, ça pourrait vouloir dire comment peut-on vivre sa foi quand on est scientifique. D'accord ? Ça, c'est science et foi. Science et religion, ce serait de dire comment certaines communautés religieuses ont-elles intégré le phénomène scientifique. Ça, c'est le rapport science-religion. Mais ici, c'est plutôt comment le discours disons, sur Dieu et le discours ou la révélation, etc., peut être mis en dialogue avec d'autres discours, en particulier le discours scientifique. Bon. Alors, si on regarde l'histoire, on s'aperçoit que, à partir du moment où la science classique apparaît, parce qu'en fait, avant la Renaissance, la distinction entre science et philosophie n'est pas radicalement faite. Souvent, les scientifiques sont encore appelés des philosophes de la nature. Donc, on pourrait dire que j'entends science au sens de ce phénomène qui apparaît, ou ces communautés qui apparaissent à partir de la Renaissance en se démarquant justement de la philosophie et de la théologie. On remarque qu'à partir de cette époque, entre science et théologie, on peut avoir des relations qui vont de la du dialogue, France, insert, etc., à la confrontation la plus brutale, la plus violente. On pourrait dire science et théologie ont eu dans l'histoire différents modes de relations. Et ces modes de relations, je voudrais les reparcourir et voir s'il y a un mode de relation propre à notre tradition théologique. Parce que ce que je voudrais montrer, c'est que la manière dont on conçoit les rapports entre science et théologie est déterminée par une certaine théologie, en particulier par la théologie de la création. Alors, mode de rapport entre science et théologie. Alors, il y a un premier mode qu'on pourrait appeler le mode concordiste, et qu'on va appeler donc le concordisme. Le deuxième mode qu'on va appeler le discordisme. Et le troisième mode que j'appellerai l'articulation. Bon, c'est pour faire bref, ce n'est certainement pas la seule façon de parler de l'histoire des rapports entre science et théologie, mais ça a le mérite, disons, de la simplicité et de mettre en évidence différentes choses. Donc ici, je mets les différents modes et ici, les différents points de vue auxquels on va considérer. Je suis désolé pour ce tableau, mais parce que je fais de l'ombre. Enfin, j'essaierai de changer de place. Voilà. Alors, premier mode, le concordisme. Donc, on a science et théologie. Et, dans le fond, certains ont dit, ben, science et théologie, ok, ben, la relation est simple, on passe de l'une à l'autre très facilement. Et un discours est tout à fait consonant avec l'autre. La science peut apporter directement des choses à la théologie, inversement. Exemple de cette position qu'on appelle le concordisme, pourquoi ? Parce qu'elle met en concordance directe science et théologie. Exemple typique, et ça émerge à la suite des réflexions sur l'exégèse à la fin du 19e, début du 20e siècle, on se pose la question de savoir quel est le lien, par exemple, entre les premiers versets de la Genèse et la description que les scientifiques donnent de la nature. Hein ? La création, l'hexaméron, donc la création en six jours, la création en six jours, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que le terme jour, yom en hébreu, le terme jour, est-ce que ça correspond à 24 heures ? Est-ce que jour veut dire 24 heures ? Alors, bien entendu, avec le développement de la description de la nature, avec les sciences naturelles, etc., on s'était rendu compte que 6 fois 24 heures, c'est peut-être trop court pour expliquer les choses que l'on rencontre, en particulier les structures que l'on trouve dans les roches, les fossiles, même les calculs qu'on faisait en mécanique céleste, en disant le système solaire, quel âge a-t-il ? Bon, finalement, on arrivait à quand même beaucoup plus que 6 fois 24 heures. À la fin du 19e, on n'en est plus à 6 fois 24 heures, parce que depuis certainement le Moyen-Âge, on avait plutôt tendance à dire que le monde avait environ 4000 ans, 4004 ans. Parce que l'évêque Usher, un évêque anglais, avait calculé l'âge de l'univers sur base des généalogies de patriarches dans la Bible, et en avait déduit, avec une certaine estimation d'âge pour chaque génération, l'âge de l'univers, et il en avait déduit à peu près 4004 ans, et il avait dit, la création du monde, c'est tel jour, telle heure, à moins 4004. Alors, on a gardé dans la tradition cela. Hein, si vous avez, vous rappelez, peut-être dans le folklore, disons, des chants de Noël, nous avons gardé ça, puisque dans « Il est né le divin enfant », vous avez chanté ça, « Il est né le divin enfant », vous vous souvenez de ça, « Il est né ». Bon, dans « Il est né le divin enfant », que je ne vous chanterai pas en intégralité, sauf qu'il y a beaucoup de musiciens ici, donc je risque de me faire envoyer sur les roses, mais dans « Il est né le divin enfant », un des couplets, rappelez-vous, c'est « Depuis plus de 4000 ans, nous l'annonçaient les prophètes ». Alors pourquoi depuis plus de 4000 ans ? Parce que depuis le Moyen-Âge, 4000 ans, 4004 ans, c'est l'âge du monde. Bon. Et on l'avait donc déterminé à partir de la Bible. Et il est clair que longtemps, on a cru que le monde avait cet âge-là. Mais seulement à partir de la fin du 19e, ça devient très compliqué de maintenir 4004 ans, parce que la plupart des estimations sur base de l'âge des roches, etc., donnaient beaucoup plus que ça. Bon. D'où l'idée que on ne peut pas passer trop vite, directement, de la Bible d'une lecture littérale de la Bible à la science. Au début du siècle, attention que ce n'est pas évident, parce que l'enjeu, c'est comment ne pas perdre la vérité biblique, mais comment tenir aussi la vérité scientifique, compte tenu du fait qu'il n'y a pas deux vérités. Il n'y a pas vérité pour les scientifiques d'un côté où on croit que le monde a des milliards d'années, et de l'autre, la vérité biblique pour laquelle c'est 4000 ans. Donc, l'enjeu est de ne pas perdre la vérité des deux côtés. Bon, mais ce n'est pas évident. Par exemple, il existe encore au début du XXe siècle des gens tout à fait sérieux dans les séminaires, des ouvrages. Par exemple, je me rappelle un ouvrage qui s'appelait « Du tac au tac, réponse aux questions, disons, du christianisme ». Donc, c'était à l'usage de gens qui étaient confrontés à des objections au christianisme, et c'était l'objection « Ce que raconte le livre de Jonas est faux ». Puisque on ne peut pas penser que Jonas est resté dans le ventre d'un poisson. Alors, réponse, 1910, dans ce livre, non, c'est, ce qui est raconté dans le livre de Jonas est tout à fait juste. On pourrait imaginer quelqu'un qui subsiste dans les entrailles d'un poisson. Il suffirait de connecter Jonas au système circulatoire du poisson par un cordon ombilical, de telle manière que Jonas soit, se comporte comme un enfant dans le ventre de sa mère, etc. Donc ce n'est pas impossible. Et d'où une biologie de Jonas qui explique comment c'est possible de rester 3 jours et 3 nuits dans les entrailles du poisson. Bon. Et ça, c'est. On est en 1910 et les gens disent attention, on peut comprendre ça. 1909, publication par la Commission pontificale biblique d'un article disant il est important de maintenir une lecture assez littérale de la création d'Ève à partir d'Adam. Donc en 1909, il faut se remettre dans le contexte. Donc les sciences bibliques commencent seulement à se développer, le père Lagrange en particulier, qui par ailleurs est quelqu'un qui est très attaché à, bien sûr, à l'Église, à l'Écriture sainte, etc., et qui se pose la question de savoir mais comment doit-on comprendre vraiment les textes pour conserver leur vérité. Et la question est de mais comment doit-on comprendre certains passages? Et alors, à l'époque, on dit la création en 6 jours, mais les jours, ce ne sont pas vraiment des jours. Enfin, il faut remettre ça. La signification n'est pas vraiment 24 heures. Bon, mais pour la création d'Ève à partir d'Adam, en 1909, la commission biblique hésite. Elle dit il peut y avoir un problème à abandonner une lecture littérale. Parce qu'on risquait peut-être de perdre l'unité du genre humain, etc. Donc, des discussions se passent. Et il n'est pas rare de voir à l'époque, par exemple, à l'université de Louvain, un certain nombre de professeurs de biologie, par ailleurs ecclésiastiques, etc., de dire, ben, ok, il y a peut-être moyen, dans la biologie, de trouver un moyen de faire sortir Ève à partir d'Adam, d'un morceau d'Adam, et de l'expliquer de façon scientifique, de telle manière qu'on puisse avoir une lecture littérale. Le chanoine Henri de Dorlodot, qui était par ailleurs un grand géologue, qui est docteur en théologie de la grégorienne, connaissant bien l'hébreu, l'exégèse, etc. Donc Henri de Dorlodot est un professeur de géologie à l'université de Louvain, qui est mort en 1929. Et de Dorlodot dit ceci, bien, pourquoi ne pas concevoir la naissance d'Ève à partir d'Adam, un morceau délatéré, huiro, dit la Vulgate, hein, du côté de l'homme, eh bien, comme une espèce de phénomène de, on dirait aujourd'hui, de clonage, de bouturage, dit Dorlodot. Et on prend un morceau et on fait une bouture. Et comme avec les fraisiers, etc. Et dit, mais ça, les biologistes connaissent bien. Ils connaissent des modes de génération agame, donc qui ne passent pas par la reproduction sexuée. Et on pourrait imaginer une sorte de reproduction de ce type-là. On prend un morceau, on fait une bouture et ça donne Ève. Et le tour est joué et les biologistes sont contents. Alors ça, attention, il faut remettre ça dans son contexte. L'enjeu est capital, c'est-à-dire l'enjeu est ne pas perdre la vérité du texte tout en maintenant la vérité de la science.